En séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Le 7 mars 2007, Mario Bois, critique d'art, éditeur et écrivain, a prononcé une communication devant l'Académie des Beaux-Arts intitulée « La trilogie de Séville, Carmen, Don Juan, Figaro ». Des personnages de la littérature et de l'opéra mythiques qui ont en commun d'être nés à Séville. Retrouvons Mario Bois en grande salle des séances pour découvrir la genèse de ces fameux personnages.
Monsieur le chancelier, monsieur le président, monsieur le secrétaire perpétuel, messieurs les académiciens, mesdames et messieurs, dans cette salle prestigieuse où vous me faites l'honneur de m'accueillir, dans ces murs habitués à des propos savants, voire austères, nous allons parler de galanterie, et plus précisément de séduction. Nous allons évoquer trois aventuriers, trois personnages nés dans une même ville, Séville. J'avais déjà eu, vous l'avez rappelé, le plaisir l'année dernière de faire ici une première communication. Ainsi, nous nous connaissons un peu. C'est pourquoi je me permets de vous faire une confidence très intime. Je tombe rarement amoureux. Or, il y a une quarantaine d'années, j'ai fait une rencontre et je suis tombé aussitôt follement amoureux. Il s'agit de Séville. Depuis ce jour-là, mon amour-passion n'a jamais faibli. Séville ne m'a jamais déçu, m'a toujours enrichi. Elle ne se donne pas au premier venu. Il faut longtemps lui faire la cour pour qu'enfin elle cède et vous livre ses secrets, ses clés, ses grandes ou ses petites histoires. En voici quelques-unes. À l'époque romaine, elle s'appelait Italica, et elle donna à Rome deux empereurs, Adrien et Trajan. Ce dernier aimait descendre au bord du fleuve dans une bourgade qu'on appela plus tard la Trajane, la Traiana, Triana. À la chute de l'Empire, Séville subit l'invasion des Visigoths et des Vandales. Le mot andalou vient de Vandale. En 715 arrivent les Arabes qui resteront en Andalousie 700 ans. Le fleuve fut appelé Guadalquivir, Guadalquivir, qui signifie le grand fleuve. Aujourd'hui, sur la rive, il y a un vieux restaurant qui s'appelle Rio Grande, le grand fleuve. C'est du pied de la Tour de l'Or à Séville que partit Christophe Colomb pour son deuxième voyage. Et aussi, peu après, Magellan et ses 250 matelots, il en revint 40 sans lui. Au détour du XVIe et du XVIIe siècle, un certain Cervantes vécut 22 ans en Andalousie. Poète de troisième ordre, si on peut dire, il était collecteur d'impôts. Picaresque, homosexuel, entre parenthèses, Dulcinée sera la femme qui reste lointaine, juif, grand joueur habitué de taverne, il accumule les dettes, il pioche dans l'argent qu'il collecte, il est incarcéré 18 mois dans la prison de la rue Sierpes à Séville, où il écrit Don Quichotte. Il a 53 ans. Nous sommes au cœur de ce siècle d'or qui s'étend à peu près de 1550 à 1650, au cours duquel, à Séville, les peintres, les sculpteurs, en particulier les sculpteurs sur bois de Christ et de Vierge, les poètes et les dramaturges rivalisent de talent et souvent de génie. Tout cela dans un bouillonnement inimaginable. Séville, fer de lance de toute la chrétienté pendant les 200 ans de guerre pour la reconquête. Elle devient, après la grande découverte des Indes occidentales, un formidable carrefour d'échanges de richesses, un centre de mélange des idées et des races. Séville, ville fabuleuse qui a inventé tant de fables. Séville des marchands, des poètes, des canailles, des galants et des saints ascétiques, cité de prières et de voluptés, ville cloître et ville théâtre, où tout est interdit au nom du ciel, mais où tout est permis au nom de la vie, ne pouvait qu'enflammer l'imagination des dramaturges et faire naître des personnages hors du commun. Nous allons parler de trois d'entre eux, Don Juan, Figaro et Carmen, vaste sujet. Nous essaierons de ne pas être trop longs, Monsieur le Président, c'est promis. Encore aujourd'hui, les Sévillans ne se rendent pas toujours compte que chaque jour, chaque soir, à travers le monde, plusieurs villes représentent Séville sur une scène de théâtre ou d'opéra. Rappelons qu'il y a plus de 40 opéras que leurs auteurs ont situés à Séville. De La Force du Destin de Verdi à La Favorite et à Maria Padilla de Donizetti jusqu'au Fidelio de Beethoven, etc. De même pour les ballets. Livrons-nous à un petit jeu. Qu'y a-t-il de commun ou de différent entre nos trois personnages? Ils apparaissent au cours de trois siècles successifs, Don Juan au XVIIe, Figaro au XVIIIe et Carmen au XIXe. Le premier, Don Juan, est inventé par un Espagnol, les deux autres par des Français, Beaumarchais et Mérimée. Ce sont tous trois des séducteurs, y compris Almaviva et Figaro. Ils sont si nouveaux, toujours en marge de l'ordre établi, que dès leur apparition, ils créent le scandale. Ce sont des lanceurs de défis, et deux d'entre eux ne peuvent que rencontrer la mort. Enfin, remarquons, et c'est peut-être le point principal, que dans ces histoires s'affrontent des couples où, chaque fois, l'homme et la femme sont, à l'origine, socialement opposés. Le ressort dramatique le plus puissant dans notre littérature et au théâtre depuis des siècles est cet amour défendu du fait de cette opposition sociale. Elle apparaît crûment en 1731 dans l'histoire contée par un prêtre, l'abbé Prévost, du chevalier des Grieux et de la prostituée Manon Lescaut. Plus tard, le valet Ruy Blas sera amoureux de la reine. Le comte Muffa va se jeter aux pieds de la petite courtisane Nana. Puis ce sera la femme et le pantin de Pierre-Louis, l'officier de marine et la geisha Butterfly, Armand et la demi-mondaine dame aux camélias. Plus près de nous, Lady Chatterley et son jardinier, le professeur Rat et son ange bleu, etc. À Séville, c'est un officier, Don José, dans son prestigieux uniforme, issu d'une bonne famille basque, qui rencontre Carmen, une gitane ordinaire. Plus haut dans le temps, le comte Almaviva désire la servante et Don Juan la paysanne. La pulsion érotique est décuplée par cet encanaillement avec son rapport dominant-dominé qui peut s'inverser, pouvant aller jusqu'au plaisir pervers de la soumission à plus bas que soi. L'histoire du prince et de la bergère est moins innocente qu'il y paraît. Le premier Don Juan qui paraît sur une scène est, très probablement, l'œuvre d'un prêtre, Tirso de Molina. La pièce est, très probablement, créée à Séville, très probablement en 1626. Tout cela est approximatif parce que, encore aujourd'hui, on ignore certaines choses. Il faut dire que les conditions dans lesquelles étaient représentées les pièces de théâtre à Séville à cette époque sont, pour nous, inimaginables. Le peuple sévillan adorait le théâtre, soit de caractère religieux, ces allégories bibliques qu'on représentait sur des chars qui allaient de place en place publique et qu'on appelait les autosacramentales, soit, bien plus encore, le théâtre profane qui était le plus souvent bouffon, grivois, salace et condamné à ciel ouvert dans une cour appelée le Corral des Comédias. La passion populaire pour le théâtre était telle qu'il y avait à Séville, à Valence ou à Madrid, trois ou quatre chorales de comédias qui donnaient des représentations tous les jours. Elles débutaient vers 14 heures et s'achevaient à la tombée du jour. Le spectacle commençait par la loa, le louange, qui faisait l'apologie de l'auteur, suivait la comédia principale, mais Entre chaque acte, on donnait un entremets, une scénette bouffonne, qui n'avait rien à voir avec la comédie. Le spectacle se terminait à la nuit tombante par la sainette des fines des fiestas, avec instruments et chansons, et on criait, on tapait des mains en cadence, on reprenait en chœur, et on dansait partout, la chaconne, la gaillarde ou la sarabande. Le prix des places allait de 1 à 100, ainsi se côtoyaient les plus pauvres et les plus riches. Le parterre était occupé uniquement par des hommes, ouvriers, petits marchands, aventuriers, soldats, matelots, qu'on appelait les mosqueteros, les mousquetaires. Au premier balcon étaient les notables, avec au centre les représentants de la municipalité, du clergé qui venait juger de la moralité de la pièce, de la police et de l'armée. Et au deuxième balcon, les femmes, turbulentes, piaillantes, bigarrées, battant l'éventail. C'était un constant vacarme. Les femmes lançaient aux mousquetaires des colibés, des plaisanteries les plus grossières. Eux y répliquaient en leur jetant des fruits pourris, des rats vivants. Ils pouvaient aussi les balancer sur scène quand les comédiens étaient mauvais. Bref, dans ce brouhaha de foire, on rit, on vocifère, on crie, on s'apostrophe, on s'injurie, on dégaline. Et c'est dans cette ambiance inimaginable, je reprends le mot, que parut un jour sur la scène le premier Don Juan de l'histoire. Les auteurs de l'époque étaient des faiseurs de pièces. On pourrait dire des machines à écrire. La postérité en a retenu trois, parmi des dizaines d'autres, Lope de Vega, Calderón de la Barca et Tirso de Molina. Lope de Vega a écrit plus de 1500 pièces, dont la majorité est perdue. Il disait qu'il pouvait écrire une pièce en trois actes en trois jours. On estime la production de Tirso de Molina à 400 pièces. On donnait alors à Séville, par exemple, plus de 200 pièces nouvelles par an. Chacune était représentée deux ou trois fois, et vite on changeait de pièce, et souvent de ville, car l'Inquisition veillait et risquait d'emprisonner les comédiens. Les auteurs vendent leurs pièces pour une somme donnée à un chef de troupe ambulante. Les comédiens sont illettrés. Ils apprennent leurs textes verbalement. Après quoi, le manuscrit est détruit. Les comédiens ne se privent pas d'inclure dans leur rôle une réplique prise à une autre pièce, souvent toute une scène, parfois même un acte entier. Le texte du Don Juan de Tirso est publié pour la première fois, perdu au milieu d'un recueil de 12 pièces de Lope, à Barcelone en 1630. D'autres éditions vont suivre, mais avec évidemment beaucoup de variantes. Pour se faire pardonner, si on peut dire, leur comédie profane, et pour continuer à en faire et à les vendre, ces auteurs cherchent à amadouer les censeurs de l'Inquisition. Ils écrivent en parallèle nombre de autos sacramentales, mais aussi, fréquemment, ils entrent dans les ordres. Lope de Vega, personnage peu sympathique, attendra la quarantaine pour se faire prêtre. Alors, il dit la messe chaque matin en sortant du lit d'une de ses nombreuses maîtresses. Il sera par ailleurs indicateur de l'Inquisition. Tirso de Molina est infiniment plus attachant, honnête, sincère. Il reçoit la tonsure à 20 ans. Dans tout son théâtre, il respecte, il célèbre la femme, lui donnant toujours le beau rôle. C'est pourquoi il va haïr Don Juan. 1625. Tirso réside quelques mois à Séville. Là, il voit la jeunesse dorée se livrer à la débauche la plus extrême. Ces jeunes fils de famille, nuit après nuit, arpentent la ville par petits groupes et pratiquent communément le viol et le crime. Et cela dans une totale impunité. Madrid est loin, très loin, et la police locale n'ose pas trop toucher à ses fils de notables. Tirso s'insurge. La religion chrétienne place le jugement dernier après la mort. Non, les auteurs de crimes et de délits doivent expier leurs fautes de leur vivant. Qu'est-ce donc que ces jeunes gens fortunés qui se moquent des femmes, de l'ordre établi, de Dieu lui-même ? Tirso va intituler sa pièce « El burlador de Sevilla ». Burlarse signifie se moquer. Le burlador, c'est celui qui se moque. Pour notre part, qui avons écrit un livre sur ce sujet, nous pensons que le Don Juan de Tirso est une pièce avant tout religieuse, qu'il a commencé par la fin, le châtiment. Le pécheur doit être puni sur terre, par justice et pour l'exemple. Après avoir bien construit sa scène finale, Tirso va consacrer ses actes précédents à définir son débauché, le chargeant de tous les vices et de tous les méfaits, en faisant le plus pervers, le plus noir, le pire homme qui fut au monde, comme on l'a nommé. Dès les premières représentations, la pièce de Tirso est interdite par l'Inquisition, mais on va la jouer à Valence, à Salamanque, ici ou là. Enfin, Tirso, le pauvre, finit par être excommunié, mais pas par l'Inquisition du Sud, par l'Inquisition du Nord. Il n'empêche qu'il terminera sa vie relégué dans la paroisse d'un village de montagne. Le titre complet de la pièce de Tirso est « El burlador de Sevilla y convidado de piedra ». Qu'est-ce que donc que ce convive de pierre ? On trouve dans les pays de culture celtique, de la Scandinavie à la Galice, la vieille tradition des contes macabres. Ils sont peuplés de vivants rencontrant des morts, leur parlant, partageant avec eux le très ancien rite du repas funèbre, de défunts sortant de leur tombe et apparaissant la nuit sous forme de spectres. Deux légendes médiévales ont été vivaces en Espagne, celle de la légende du crâne, dans la province de León, et celle voisine de la légende de la statue, de la province de Vieille-Castille. La première, celle du crâne, commence ainsi. Un galant allait à l'église, non pas pour entendre la messe, mais pour regarder les dames, toutes belles et fraîches. Au milieu du chemin, il trouve une tête de mort et lui donne un coup de pied. Elle se met à rire de toutes ses dents. « Joli crâne, dit l'homme, je t'invite cette nuit à dîner. »« No hagas burla, ne te moque pas, dit le crâne, etc. » L'autre légende, celle de la statue, commence ainsi. Un galant gentilhomme s'en va à l'église, plus pour voir les dames que pour chanter compli. Là, il s'approche d'un mort, tout sculpté de pierre, lui tire la barbe pour se moquer et lui dit « Je t'invite cette nuit à t'asseoir à ma table. » Et voilà qu'à la minuit, le mort frappe à la porte, etc. Avant même Tirso, les pièces utilisant ce thème sont nombreuses. Le dernier acte permet des jeux de décors, des machineries spectaculaires, et le public aime frémir à l'arrivée du spectre. Rappelons celui d'Hamlet, écrit en 1605, 20 ans avant le burlador. Tirso va donc marier habilement ce convive de pierre préexistant à son propos religieux qui tient à punir le débauché. Faute de temps, nous passons sous silence complètement toute l'histoire de Miguel de Manara. Et nous passons en France 40 ans plus tard. 40 ans. Nous sommes en 1664. Molière vient d'écrire en vers Tartuffe, qui, choquant tellement les dévots, n'est représenté qu'une seule fois et aussitôt interdit. Or, la troupe de Molière compte 45 personnes. Il faut survivre. Alors Molière écrit vite, Don Juan ou le convive de pierre, vite en prose. Le temps presse. En France aussi, le sujet du convive de pierre a déjà inspiré les dramaturges, toujours avec succès. Donc, prenons-le, et Molière connaît l'espagnol. Par exemple, il a écrit des couplets en espagnol pour le bourgeois gentilhomme. De plus, à la cour de Louis XIV sont venus plusieurs fois des troupes de comédiens espagnols. C'est une des conséquences du mariage espagnol du roi. Molière les a vus jouer, on peut penser qu'il a vu représenter le burlador de Tirso. Alors Molière saisit le sujet qui est dans l'air et écrit son Don Juan, mais là, son génie va faire de ce personnage un athée. Alors, les donjons vont se succéder au XVIIIe siècle, entre autres celui de Goldoni, jusqu'à ce que, 120 ans après Molière, un autre homme extraordinaire, Mozart, écrive Don Giovanni pour l'opéra de Prague. Notons au passage que le texte est l'œuvre d'un prêtre, encore un prêtre, da Ponte, mais celui-ci est défroqué. Alors, là, nous n'allons pas entrer dans le Don Giovanni de Mozart. On va, par exemple, regarder là que da Ponte, c'est da Ponte qui a fait le livret, Don Giovanni. Alors, Don, c'est un mot espagnol, Giovanni, c'est un mot italien. Alors, chez Molière, Dom, c'est un mot italien, Dominus, parce que la pièce se passe en Sicile, et Juan est un mot espagnol. Donc, les deux titres sont incohérents. Alors, nous avons eu l'idée d'aller chercher l'autographe de Mozart, qui a écrit au début de Don Giovanni, Don Juan. C'est-à-dire que c'est toujours Mozart, finalement, qui a raison. Dès lors, de 1800 à nos jours, d'innombrables donjons vont se succéder. Citons, entre autres, le long poème de Byron, la tragédie de Pushkin, la pièce de Sorrilla, soulignons qu'à Séville, le donjon le plus célèbre, le plus joué, n'est pas celui de Tirso. C'est celui de Sorrilla, écrit en 1844. C'est un donjon romantique. Le poème dramatique de Lenau, la très mauvaise pièce de Monterland, l'opéra de Stravinsky, le Libertin, etc., etc. On constate qu'au cours des siècles, tous ces donjons perdent peu à peu leur caractère tragique et métaphysique et, de ce fait, leur force dramatique. Avec le temps, Don Juan a trop souvent été réduit à un aventurier, à un collectionneur de femmes, à un séducteur dont le fort tempérament rend les hommes jaloux et les femmes curieuses. Mais cette réduction nous fait perdre de vue la foudroyante rencontre d'Eros avec Thanatos. Passons à notre deuxième personnage, Figaro. C'est certainement le plus difficile à définir, à appréhender. C'est qu'il ne s'agit plus de tragédie amoureuse, mais d'un ensemble de trois comédies, le barbier, le mariage de Figaro et la mère coupable, dont la légèreté masque des idées nouvelles, audacieuses, pré-révolutionnaires. Ici, il s'agit non plus de cœur ou de sexe, mais d'esprit. 1752, rue Saint-Denis à Paris, Monsieur Caron tient une boutique d'horloger. Il a un fils de 20 ans, Pierre-Augustin, qui est très ingénieux. Il joue aussi de plusieurs instruments, harpe, guitare, clavecin. Ambitieux, séducteur, calculateur, opportuniste, il réussit à s'introduire à la cour. Le roi le remarque, s'intéresse à ses montres plates, et le fils Caron réalise pour Madame de Pompadour une montre-bague de 1 cm de diamètre. Il a à peine 24 ans. Il devient l'amant d'une dame dont le vieux mari a une charge importante à la cour. Celui-ci a la bonne idée de mourir, et Pierre-Augustin épouse aussitôt la riche veuve. Elle possède en province une terre appelée le domaine de Beaumarchais. À son tour, elle meurt, il hérite. Il y a des complications avec des procès, mais il hérite. À la cour, il parvient à ce que le roi le charge de l'éducation nationale de ses filles, de l'éducation musicale de ses filles, les princesses de France. Il se lie d'amitié avec un banquier richissime, Paris Duvernet. À ses côtés, il progresse dans les affaires, achète une charge royale qui lui confère la noblesse et le fils Caron devient seigneur de Beaumarchais. Tout cela se fait à grand bruit. Il mène grand train dans son hôtel particulier parisien où défilent ses maîtresses. Il écrit des petites farces qui sont représentées au château de Paris Duvernay. À la cour, les aristocrates ne se privent pas de lui rappeler son origine roturière. Lui, de son côté, ne cessera pas de dénoncer les méfaits, la corruption de certains grands personnages, ce seront chaque fois des actions en justice. Il publie chaque fois sur chaque affaire un mémoire. Il le tire à des milliers d'exemplaires. Le peuple se passionne et prend parti pour lui. 1764, Beaumarchais a 32 ans. Il a 5 sœurs et le sens de la famille. L'aînée des sœurs vit à Madrid et son amant espagnol, après lui avoir promis le mariage, l'abandonne. Beaumarchais bondit. Sur place, il attaque l'infidèle. Il y a un procès, ça traîne, et Beaumarchais d'ailleurs le perdra. Mais il s'occupe aussi, sur place, d'affaires secrètes dont nous ne savons pas grand-chose. Négociations, transactions que lui a confiées Paris Duvernay et qui s'établissent au plus haut niveau de l'État. Bref, Beaumarchais reste 11 mois à Madrid. Il ira jusqu'à Aranjuez pour parler au roi, mais pas plus loin, donc jamais à Séville. Il mène grand train, il va de réception en réception, éblouissant en société, séduisant, plein d'humour. Il dit un poème galant, il saisit une guitare, chante un couplet français et puis une séguedille qu'il a notée le matin même dans la rue. Il se rend souvent au théâtre, il assiste à ses entremeses, ces farces où traditionnellement le personnage qui tire les ficelles est un sacristain, ou un bachelier, ou un barbier. Retour à Paris, retour aux affaires, mais Beaumarchais rêve de briller aussi au théâtre. Il écrit deux drames, Eugénie en 1767 et Les deux amis. C'est chaque fois un échec. Au retour d'Espagne, il avait ébauché une bouffonnerie espagnole intitulée Le Sacristain. Ne ferait-il pas mieux d'aller vers le genre comique? Mais le comique noble, l'opéra comique par exemple. Il remplace son sacristain par un barbier, il habille sa comédie de musique, mêlant des airs français à des chansons espagnoles, rapportées de Madrid. Mais la direction de l'opéra comique, les Italiens, refuse sa proposition. Il faut se rabattre sur la comédie seule. Beaumarchais se rappelle Madrid. Il allait tous les jours chez le barbier, la barberia. C'est un lieu haut en couleur. Il n'y a que des hommes, ce qui veut dire liberté des propos, discussion politique, critique sociale et plaisanterie grivoise. Le barbier de Madrid connaît tout le monde. Il se rend chez les aristocrates. Il revient dans sa boutique en racontant tout. Il est le plus souvent andalou. Il connaît les musiques et les danses populaires. Truculent, hâbleur, jovial, il vous donne une adresse galante, une introduction chez un notable, une tisane revigorante de sa façon. Dès que son travail lui en laisse le temps, il décroche au mur sa guitare, il vous chante un couplet frondeur qu'il a fait la veille. Et dans la boutique, on crie, on frappe des mains, et le barbier se met à danser la séguedille. Beaumarchais le revoit dans sa tête. Il est là, le barbier de Séville, avec sa culotte bouffante et ses bas de soie, son boléro chamarré et sa résille retenant ses cheveux. Quel beau personnage cela ferait au théâtre à Paris. Il retrouve aussi le personnage du barbier dans les romans espagnols de Le Sage qui sont alors à la mode en France. Remarquons que le barbier est un homme libre. Il ne dépend de personne. Le traditionnel valet de comédie, de Sancho Panza à Sganarelle, est soumis à son maître. Remplaçons-le par un barbier employé dans une grande maison, certes, mais qui pourra dire au Seigneur ses quatre vérités, et plus largement aux puissants, tout haut, ce que le peuple français de 1780 pense tout bas. Le public sera ravi. Beaumarchais se souvient aussi de la petite comédie de Scarron, La précaution inutile. Adaptons-la, à nouveau. Plaçons l'action à Séville, mettons-y quelques chansons et à la fin, un petit ballet. La pièce est en quatre actes. La première à la Comédie française est fixée au 12 février 1774. Entre parenthèses, Beaumarchais vient de sortir de prison où il a passé 2 mois. Motif, il avait partagé son lit avec la maîtresse du duc de Chaulnes. La veille de la première, le Parlement s'alarme. Il a découvert dans le texte des allusions défavorables à la magistrature. La pièce est interdite. Beaumarchais pense alors que la pièce serait peut-être mieux équilibrée en 5 actes. Alors il écrit, vite, trop vite, un 5e acte où il accumule un tas de gaudrioles de dernier ordre. Je vais vous donner des exemples. Rosine précise. Mon mari est mort de la ceinture en bas. Le galant chantonne. Quand je rencontre quelques dondons jolis, je lui fais des espiègleries. Et Bartolo, enfin réconcilié avec Rosine, lui lance « Donne ta menotte au vieux loulou ». Comme on peut voir, ça ne vole pas très haut. La première a enfin lieu le 23 février 75, c'est-à-dire un an plus tard. Le rideau tombe, c'est un échec. La deuxième représentation doit être donnée 3 jours plus tard. Alors, c'est là qu'apparaît le génie de Beaumarchais. Il revient à sa version en 4 actes et il passe 3 jours et 3 nuits à tout revoir, couper, ajouter, fignoler. Et voilà que, par miracle, cette représentation du 26 février est un succès. Ce sera bientôt un triomphe et on commence à jouer le barbier de Séville à l'étranger. Au point que des compositeurs en font des opéras. À peine plus d'un an après la création de la pièce, le compositeur tchèque Benda fait représenter son barbier de Séville à l'opéra de Hambourg. 3 ans plus tard, c'est le célèbre italien Paisiello qui donne son barbier de Séville à l'opéra de Saint-Pétersbourg. Dans les décennies qui vont suivre, 4 autres compositeurs vont écrire leur barbier de Séville. Schulz, Niccolò, Morlacchi et, en 1816, le jeune Rossini. À Paris, Beaumarchais, tout en continuant à se battre, à se débattre dans les affaires, décide de donner une suite au barbier. Ce sera le mariage de Figaro, qui est achevé dès 1778, c'est-à-dire à peine 2 ans avoir écrit son barbier de Séville, il a écrit le mariage de Figaro. Mais là, il va beaucoup plus loin dans la contestation sociale. Dans le barbier, nous avons compté 10 de répliques agressives. Dans le mariage, plus de 100 lignes tout à fait sulfureuses. Le monologue de Figaro, avec ses flèches lancées vers l'aristocratie, par exemple le fameux « Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus », va mettre le feu aux poudres. Premier passage du texte devant la commission de censure en 1780, elle demande plusieurs suppressions. Deuxième passage, 1 an plus tard, avis défavorable. La reine Marie-Antoinette est pourtant pour. Louis XVI se fait lire la pièce et déclare, il a toujours le mot qu'il faut, « Cela ne sera jamais joué, vraiment, il faudrait qu'on prenne la Bastille. » Troisième, quatrième, cinquième censure aux avis opposés, et puis enfin, 6 ans après la commission, une 6e commission de censure annonce pas d'objection. Le mariage de Figaro est enfin créé le 27 avril 1784 sur la scène de la Comédie française devant une salle houleuse où la cabale des conservateurs s'oppose aux tenants des idées nouvelles qui applaudissent frénétiquement après chaque réplique audacieuse. Viennent 1 an plus tard, seulement 1 an plus tard, du mariage de Figaro à Vienne déjà circulent 12 traductions allemandes. Mozart lit la pièce et s'enthousiasme. Avant tout, il trouve là un humanisme qui répond à l'idéal maçonnique dans lequel il s'est engagé récemment. Dernière question sur Figaro. Beaumarchais a-t-il entendu les noces de Figaro? Point d'interrogation. Beaumarchais a inventé le droit d'auteur, vous le savez, mais cela n'est pas encore pratiqué à Vienne. Mozart a-t-il demandé à Beaumarchais l'autorisation d'emprunter le sujet du mariage de Figaro pour son opéra? C'est pratiquement certain que non. Mais Salieri vient à Paris travailler avec Beaumarchais pour leur opéra Tarare. C'est en 1787 et on vient de créer les noces à Vienne. Ils en ont donc parlé. La Révolution a éclaté, Beaumarchais n'est plus en faveur, il s'est livré à trop de trafic en tout genre. 1793, cette année-là, Paris est en prise avec la terreur, Beaumarchais va devoir s'exiler, il a 61 ans. quelques jours avant son départ, on donne une représentation de son mariage de Figaro où, entre les scènes, on chante les principaux airs des noces de Mozart. Beaumarchais est présent, dissimulé dans un coin, mais il n'entend rien parce qu'il est sourd. Il meurt en 1799. 1816, Rossini a 23 ans. Il a déjà composé 14 opéras en 6 ans. 14 opéras en 6 ans. Il en écrira une trentaine d'autres dans les 20 années suivantes et puis s'arrêtera définitivement de composer et se consacrera à la gastronomie qui le fera beaucoup grossir. Début janvier 1816, Rossini est à Rome. Il vient de donner à Naples Élisabeth, reine d'Angleterre, qui a triomphé, puis Torvaldo, qui est un échec total. Un gros fiascone, comme dit Rossini en riant. À Rome, il y a deux théâtres d'opéra concurrents. L'un d'eux commande à Rossini une nouvelle œuvre, c'est urgent. Nous sommes en janvier et c'est pour fin février. Rossini va écrire son Barbier de Séville en 16 jours. Record de vitesse battu de peu par Handel qui composa le Messie en 15 jours. La première s'annonce tumultueuse. Il y a les habitués de l'opéra concurrent, montés à bloc contre Rossini. Il y a les admirateurs de Paisiello, qui n'admettent pas qu'on touche au Barbier après lui. Et puis il y a les fans, les partisans de Rossini. Stendhal, entre autres, assiste à cette première. La salle est en ébullition. Rossini, dans la fosse, tient le pianoforte. Alma Viva est chantée par un jeune ténor espagnol, Manuel García, qui plus tard aura deux filles, toutes deux cantatrices, Pauline, qui épousera Viardot, et la Malibran. Le rideau se lève, le comte entre en scène, se place sous le balcon, fait sonner sa guitare, catastrophe, elle est désaccordée. Rires et sifflets. Le chanteur se met à régler son instrument, voilà qu'une corde casse. Rires, quolibets, plaisanteries en tout genre. L'air de Figaro vient, on se calme, alors le baryton entre en scène avec une autre guitare et tout le solo est inaudible. Puis paraît Rosine, son air commence par ces mots « Segui o caro, segui così », ce qui veut dire « Continue mon chéri, continue comme ça ». La salle exulte, hilarité générale, roulement de pieds qui couvre tout le solo suivant. Alors Rosine entonne son grand air, elle est jolie, elle vocalise à l'extrême, c'est l'ovation. Rossini se lève de son tabouret et salue, il est hué. Entre alors Basile pour le grand air de la calomnie, il tombe dans une trappe et se casse le nez. Il chante tout en se tamponnant avec son mouchoir. Les balcons risquent de s'écrouler. Enfin, au final, un chat entre en scène et va se frotter aux jambes des chanteurs qui tentent de le chasser. C'est le délire. Miaulements, chants d'oiseaux, hurlements. C'est incroyable. Puis vient le deuxième acte, dont il fut impossible de percevoir la moindre note, rapporte un témoin. Rossini rentra seul à son hôtel et lorsqu'un ami l'y rejoignit une demi-heure plus tard, il dormait profondément du sommeil du juste. Le lendemain, il ne vint pas à la représentation, qui fut ainsi annulée. La troisième fut écoutée, la quatrième succès, et à la fin de la septième et dernière, Rossini fut porté en triomphe. D'où vient ce nom de Figaro? On a souvent dit que Beaumarchais était le fils de l'horloger Caron, était dans sa jeunesse appelé le fils Caron, Ficaron, Figaro. Bon. D'autres ont pensé au mot espagnol « picaro », qui signifie « fripon malicieux et intransigeant ». Bon. On a évoqué aussi le cigaro qu'on fume à la barberie en bavardant. Mais Jean-Pierre de Beaumarchais, descendant direct du grand homme, nous a donné l'explication certaine. On a retrouvé ces dernières années les premières esquisses manuscrites de Beaumarchais, « Le sacristain » et « La suite ». Après bien des pages, c'est très émouvant, en face d'une réplique apparaît pour la première fois le mot « fig », F-I-G. Puis un peu plus loin, « figuaro » avec un U, répété sur plusieurs scènes. Or, au XVIIIe siècle, en France, on disait couramment d'un plaisantin « il fait la figue », c'est-à-dire « il se moque », ce qui signifie que Figaro serait lui aussi un burlador de Séville. Et voici notre dernier personnage, Carmen. 1798, c'est la campagne d'Égypte. Voilà que l'Orient, le Moyen-Orient, que Molière, Voltaire et Mozart n'avaient pas pris au sérieux, en s'en moquant avec leur turquerie, commence à faire rêver nos écrivains. Les premiers à s'y rendre à partir de 1806 sont d'abord Chateaubriand, puis Byron. Après quoi, le voyage en Orient devient un voyage obligé pour nos auteurs et un genre littéraire que vont illustrer Lamartine, Flaubert, Nerval, Gautier, etc. Mais pour se rendre là-bas, on peut traverser les Alpes ou bien aussi passer par Gibraltar. C'est ce que fait Chateaubriand à son retour de Jérusalem. Il publie alors « Sur l'Andalousie mauresque », une nouvelle qui a grand succès, le dernier des abincérages. De plus, après 1815, bien des militaires français, revenant de la guerre d'Espagne, publient leurs souvenirs. Entre autres, un jeune officier qui s'appelle Eugène Sue. Par ailleurs, des Espagnols qui ont choisi pendant ce conflit le côté français, se réfugient en France, on les appelle Afrancesados. C'est ainsi que Goya viendra mourir à Bordeaux. Charles Nodier fait un petit voyage à Barcelone en 1824. À Paris, dans son salon de l'Arsenal, se réunissent les jeunes Turcs que sont Hugo, Mérimée, Musset, etc. Ils rêvent tous d'Espagne. 1830, Mérimée a 27 ans. Il a publié son théâtre de Clara Gasul, comédienne espagnole, recueil de courtes pièces à lire, dont plusieurs sont des espagnolades. Il décide d'aller connaître l'Espagne. Il demande à son ami Stendhal de l'accompagner. C'est impossible, l'argent manque. Mérimée partira seul pour quelques semaines. Il reviendra 6 mois plus tard. Au siècle précédent, d'illustres Français avaient visité l'Espagne, le duc de Saint-Simon, la marquise de Villars, le cardinal de Retz. Mais ils n'avaient pas été plus loin que Madrid et Barcelone et n'avaient connu que les dîners d'ambassade et les loges d'opéra. Mérimée, lui, du fait qu'il est seul et curieux de tout, va traverser toute la péninsule en long en large, se mêler aux petits peuples, paysans, muletiers, toreros, cigarières, danseuses de bouges, chanteurs de rue et gitans. Mérimée s'intéressera toujours aux minorités, corses, bohémiens de Valachie, tziganes de Russie, etc. Mérimée parle espagnol. Dans une diligence, il fait la connaissance du comte de Teba, un afrancesado, plutôt des argentés. C'est son frère aîné qui est riche et possède le titre de Montijo. Teba présente à Mérimée sa femme Manuela. Teba meurt et peu à peu son frère aîné. Manuela, par un tour de passe-passe, parvient à hériter la fortune et le titre de Montijo. Elle a 2 filles, dont l'une, qui a 4 ans, s'appelle Eugenia. La nouvelle comtesse de Montijo, établie dans son salon de Madrid, présente à Mérimée des personnalités dont l'écrivain folkloriste Estebanés Calderón, qui va emmener notre homme faire la fête dans les tavernes de Séville. Chez la comtesse, Mérimée entend beaucoup d'histoires, des légendes, des vieilles romances, des anecdotes. L'Espagne répond à la nature profonde de Mérimée, à son tempérament expressionniste. Couleurs violentes, saveurs fortes, caractère dur, mœurs brutales, il aime l'insolite, l'excès, le vulgaire, l'encanaillement. Retour à Paris, il doit construire sa carrière, monter les échelons. Il devient un remarquable inspecteur général des monuments historiques. Par ailleurs, il écrit, mais toujours, des histoires brèves, des contes et des nouvelles dans un style très concis. Je vais vous raconter peut-être une petite histoire qui est un souvenir. C'est en 1964 que je découvre Séville lors de la feria d'avril. J'ai la chance de faire partie d'une bande qui compte Orson Welles. Un jour, je lui dis, bien timidement, « j'envisage d'écrire un livre sur les voyageurs français en Espagne. Il me répond, votre livre sera ridicule. Mais pourquoi donc? Parce qu'il y aura Théophile Gautier. Alors j'ajoute, mais il y aura aussi Mérimée. Alors Wells changea de ton et devint tout doux. Ah, Mérimée, je passerai ma vie à ne pas oser filmer Carmen. 70 pages. Des admirateurs, à ce moment-là, l'emportèrent et il s'éloigna en répétant 70 pages, 70 pages. 1845, reprenons Mérimée. Mérimée est nommé à l'Académie française. Et vite après, dans la Revue des Deux Mondes, il publie sa brève nouvelle Carmen, 70 pages, à l'odeur crapuleuse. Mérimée écrit alors à sa chère comtesse de Montijo, « Je viens de passer 8 jours enfermée à écrire une histoire que vous m'aviez racontée il y a 15 ans et que je crains d'avoir gâtée. » À un ami, Mérimée écrit, « Vous lirez une petite drôlerie de votre serviteur qui serait demeurée inédite si l'auteur n'eût été obligé de s'acheter des pantalons. » Coquetterie, coquetterie, Mérimée pensait à Carmen depuis longtemps. Certains déclarèrent que s'il l'avait publié plus tôt, il ne serait jamais entré à l'Académie française. Pourtant, l'apparition de Carmen fit peu de bruit et passa d'abord presque inaperçue. Elle ne sera publiée sous forme de livre que 18 mois plus tard et tirée seulement à 1500 exemplaires. Je vais vous montrer quelque chose, une projection. Vous allez regarder, ce sont des dessins de Mérimée. Alors, Mérimée, là, représente Carmen et Don José, parce que Mérimée est dessinée comme dilettante. Alors, on voit que Carmen, elle est très gentille, elle n'a rien de méchant. Hein. Voici Carmen et Don José dessinés par Mérimée. Après, on va voir des gitans dans une cave dessinés par Mérimée. Après, on va voir des esquisses de femmes espagnoles croquées par Mérimée. Une et puis quelques autres de femmes espagnoles croquées par Mérimée. Et puis on verra enfin, bon, quelque chose, c'est Eugénie de Montijo, c'est pas flatteur, hein, croquée par Mérimée. Nous reprenons notre cours des choses. Mérimée meurt en 1870 à Cannes, asphyxié par l'asthme. Il avait été un grand fumeur de cigares. Cette année-là, à Paris, il y a un jeune et pauvre compositeur qui a 32 ans. Il s'appelle Georges Bizet. Il a écrit 3 œuvres lyriques, La Gouzla de l'émir, vite pour boucher un trou de dernière heure à l'opéra comique, puis Les pêcheurs de perles, l'œuvre tombe après 15 représentations. La troisième, c'est Ivan IV, mais il n'a pas le temps de l'achever. Il a épousé une jeune fille de 15 ans, Geneviève Alévi, qui montre des signes de fragilité mentale. Il a un fils, Paul. Bref, il tire le diable par la queue. Il est employé comme nègre par les compositeurs à succès, Gounod, Saint-Saëns, Ambroise Thomas, etc. C'est Bizet qui fait pour les uns et les autres les réductions pour piano, les arrangements pour chœur, et même plusieurs orchestrations d'actes entiers pour M. Gounod. Il écrit à un ami, « Je travaille 15 et 16 heures par jour, plus quelquefois, car j'ai des leçons, des épreuves à corriger, il faut vivre. » 1873, le bon Alphonse Daudet lui passe une commande pour son Arlésienne. Hélas, ce n'est pas un opéra, mais seulement une musique de scène. Bon, on la crée sur un théâtre en plein air. Désastre, écrit un témoin, personne n'écoute la musique. Mais le remarquable chef d'orchestre Padeloup donne peu après l'œuvre en concert et c'est un succès. Bizet a 34 ans. Émoustillé par ce succès, la direction de l'opéra comique, qui est assumée par 2 hommes, Leven et Dulocle, décide de commander une œuvre à Bizet. Mais sur un sujet obligé, l'oiseau bleu. c'est que leur théâtre est fréquenté par la bonne bourgeoisie catholique bien pensante. C'est là, à l'entracte, qu'on présente d'honnêtes jeunes gens à de pures jeunes filles qui, alors, baissent les yeux et regardent justement là où il ne faudrait pas. L'oiseau bleu. Que voulez-vous que je fasse sur un sujet pareil, se lamente Bizet. Après bien des lectures et des recoupements, nous pensons qu'il est arrivé ceci. Nous pensons, c'est Ludovic Alevi est le beau-frère de Bizet. Il est fort riche grâce à tous les livrets d'opérettes à succès qu'il a écrits pour Offenbach. Il aime bien cet honnête garçon qu'est Bizet. Il va l'aider. Il va écrire pour lui les textes du prochain opéra comique. Mais pas l'oiseau bleu. Alevi cherche. Il habite dans le même immeuble rue de Douai que Bizet. Bizet, lui, il est au rez-de-chaussée. Une idée surgit, Mérimée. Pourquoi ? Parce que 3 ans plus tôt, Alevi a utilisé le carrosse du Saint-Sacrement de Mérimée pour faire la péricole qui triomphe au Théâtre des Variétés. Coup d'œil dans la bibliothèque, Mérimée, Carmen. Bizet prend peur. L'histoire d'une cigarière gitane et prostituée, ils n'en voudront jamais. Visite à Leuven et Dulocle, le directeur. Mais ben, Carmen, vous êtes fou. Alevi rassure avec toute l'habileté de son charme. On va tout adoucir. Carmen ne sera pas une prostituée. Pour Don José, on va lui inventer une douce et pure fiancée, Michaela. Le vulgaire picador de Mérimée deviendra un magnifique matador. Et puis, au début, il y aura un cœur d'enfant. Dulocle intervient. Il n'est pas question que quelqu'un meure à la fin. La mort à l'opéra comique, ça, jamais. Faites-nous quelque chose de gai. Et puis, entre 2 actes, mettez-nous un petit ballet. Pensez à notre public, que diable. Dulocle, peu à peu faibli, accepte l'idée de Carmen. Au contraire, Leven, furieux, donne sa démission. Après l'entretien, Bizet perplexe. On ne va tout de même pas nous obliger à dénaturer Mérimée. Alevi lui rappelle qu'après tout, Mérimée, il est mort depuis 3 ans. Les 2 hommes se mettent au travail. Mais il faudrait au compositeur quelques connaissances de la musique espagnole. On lui conseille de faire le voyage dans cette Espagne qu'il ne connaît pas. Bizet répond, non, ça me gênerait. À vrai dire, il n'a pas le sou. Il ira à la bibliothèque du conservatoire où il trouvera au moins un recueil de chansons espagnoles, celui d'Iradier. Il déniche là-dedans un air Ay Chinita, une habanera, c'est-à-dire une chanson cubaine de la Havane. Il va la reprendre note par note et en parfait honnête homme mentionnera au bas de sa partition qu'il a fait cet emprunt. Mais Bizet n'est pas totalement ignorant de la musique espagnole. Il a pour ami le violoniste gitan Sarasate. Il a entendu Pauline Viardot chanter dans son salon des mélodies espagnoles. Il a vu se produire à l'hippodrome des danseurs espagnols. Et puis, à vrai dire, il y aura très peu de musique vraiment espagnole dans l'opéra de Bizet. La première de Carmen, l'opéra est fixé au 3 mars 1875. Les répétitions sont de plus en plus houleuses. Celle qui a accepté de créer le rôle-titre est une bonne fille vulgaire, Célestine Galimarié, qui exige que Bizet, parfois à 3 ou 4 reprises, modifie ses airs. Le metteur en scène Bouchard est un âne buté. Les cigarières ne doivent pas fumer, les soldats ne doivent pas les prendre par les épaules, et le ballet, où est le ballet, etc. Dulocle déclare à l'entour, c'est de la musique conchin chinoise, on n'y comprend rien. Hors du théâtre, la rumeur enfle, c'est scandaleux de jouer ça à l'opéra comique. Le soir de la première, la salle est pleine. Sont présents Offenbach, Massenet, Delibes, Alphonse Daudet, Dumas fils, Meillac et Alevi, etc. Gounod n'est pas venu. Et puis la critique au complet, toute griffe dehors. Dulocle n'a pas osé inviter les officiels. Les 3 entr'actes sont beaucoup trop longs, plus de 50 minutes chacun. Au 2e, Dulocle supplie Bizet, il faut couper, dites-moi où, mais il faut couper. Au dernier acte, la salle est clairsemée. Un témoin note, la soirée qui traînait en langueur prend fin dans une atmosphère glaciale. À 1h du matin, Bizet se trouve sur le trottoir, seul avec son ami Guiraud, et lui dit d'une voix brisée « Tu le vois bien, c'est un échec. Cette fois, je suis foutu. » Bizet se réfugie dans une modeste maison qu'il a louée à Bougival au bord de la Seine. Les deux premiers jours, il lit les journaux. Théodore de Banville et Saint-Saëns sont admiratifs. Mais bientôt, on essaiera de cacher à Bizet les critiques qui paraissent parce qu'elles sont de plus en plus ignobles. Il y en a plus de 25. C'est comme une mise à mort. En voici de très courts extraits. Cet opéra n'est ni scénique ni dramatique, etc. Oscar commettant le siècle. Comme cette partition est touffue, comme elle manque d'ordre et de clarté, etc. Henri Lavoie, l'illustration. L'orchestre bavarde tout le temps et dit une infinité de choses qu'on ne lui demande pas. Le Monde illustré. Il sera nécessaire de refaire le livret, d'en retrancher les vulgarités. Je ne rangerai pas Carmen parmi les ouvrages qui doivent rester au répertoire. Félix Clément. Carmen, une créature inculte, une bête fauve, elle n'est pas supportable. Monsieur de la Genève, la revue des deux mondes. Il est difficile d'aller plus loin sur la route des amours cavalières sans provoquer l'intervention des sergents de ville. François Oswald Le Gaulois. Peste soit de ces femelles vomies de l'enfer, et quel singulier opéra comique que ce dévergondage castillan. C'est un délire de castagnette, de tortillement provocateur, de hurlement amoureux. Ce n'est pas avec des dissonances risquées qu'on peut exprimer les fureurs utérines de Mademoiselle Carmen. Oscar commettant le siècle. Cette bohémienne est une créature abjecte, et Mademoiselle Gallimarié en a encore exagéré la puanteur. Ses gestes suent le vice. Léon Escudier, l'art musical. Et enfin, une fois qu'on s'est engagé dans l'égout social, on est forcé de descendre encore. Carmen, c'est la fille, dans la plus révoltante acception du mot, une bohémienne, une sauvage, moitié égyptienne ou gitane, moitié andalouse, se chargeant d'endormir sous ses caresses vénales la vigilance des douaniers. Signé Achille de Lozière, marquis de Thémines, La Patrie. Nous sommes à la fin mars, à Bougival, Bizet est dans un état de dépression grave, est abattu, absent. Ce n'est pas de l'amertume, c'est une grande tristesse. Il ne retournera pas revoir Carmen. Pourtant, soir après soir, la salle se remplit peu à peu. Gallimarié se démène, se donne à plein. On applaudit. À Bougival, Bizet, fiévreux, s'alite. Abcès à la gorge, amygdalite aiguë. Le matin, un pâle soleil de printemps perce la brume. La scène est toute brillante. Le petit Paul joue dans le jardin. Bizet va mieux. Début mai, soudain, joie immense, bonheur sans limite. Duloc annonce que l'opéra de Vienne veut monter Carmen à l'automne. Bizet n'a plus la force de se réjouir. Le 30 mai, il fait soleil. Bizet se sent rétabli. Il a toujours beaucoup aimé la natation. Il propose à un ami un bain dans la Seine. L'eau est glacée. Ils en sortent transis. Quelle folie! Dans la nuit du 2 au 3 juin, rhumatisme aigu, crise cardiaque, à 2h du matin, le cœur s'est arrêté de battre. Bizet a 36 ans et 7 mois. Nous sommes jour pour jour, 3 mois après la première de Carmen. Pour terminer, disons que 2 ans et demi après la mort de Bizet, 6 capitales acclament Carmen dans le monde, Stockholm, Dublin, Londres, New York, Philadelphie et Saint-Pétersbourg. Or, pour que toutes ces représentations aient lieu, il avait fallu établir un texte dans une langue chantable partout, l'italien. Et qui se proposa pour faire ce travail rémunérateur? Qui insista et finit par l'obtenir? L'immonde critique, l'ignoble Achille de Lozière, marquis de Thémines. Alors, j'ai fait un rêve. C'est une histoire de coup de foudre. C'est un hiver, un soir, dans la rue. Le marquis de Thémines rentre chez lui, où l'attend sa fidèle épouse. Il est emmitouflé dans un magnifique manteau qu'il a pu s'acheter grâce à tout l'argent qu'il a gagné avec Carmen. Voilà qu'il est abordé par un homme jeune, sympathique, qui lui dit « Je m'appelle Figaro. Je voudrais vous présenter quelqu'un. C'est une femme extrêmement belle et séduisante. Suivez-moi, entrons dans cette église. » Le marquis ne dit pas non. Sous la voûte, dans l'ombre, on discerne une forme noire. « Voilà, dit Figaro à voix basse, c'est elle. Elle se cache sous sa mantille et sous sa cape noire, mais regardez, elle vous tend la main. » Le marquis s'incline pour baiser cette jolie main. Alors, soudain, les grandes orgues retentissent, un éclair jaillit, les vêtements noirs tombent et apparaît la statue du commandeur. Alors le marquis pousse un grand cri et tombe foudroyé.
Vous venez d'entendre Mario Bois, critique d'art et écrivain, venant de prononcer une communication devant l'Académie des Beaux-Arts le 7 mars 2007 sur le joli thème de la trilogie de Séville, Carmen, Don Juan et Figaro. Vous pouvez écouter la retransmission des séances de l'Académie des Beaux-Arts ou de l'Académie des Sciences Morales et Politiques sur Canal Académie en recherchant les séances dans la médiathèque. Bonne écoute !